France Inter.
Bonsoir, waouh, et bienvenue à toutes et à tous, j'ai tout dit dans l'ordre. C'est Côté Club, la quotidienne musicale de France Inter, en direct et en live, avec le meilleur de la scène française et Marion Guilbeault. Bonsoir Marion.
Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
Et ce soir, nos invités stars sont Jane et Tiwayo. Bonsoir à vous deux. Enfin, il y en a une qui est au micro derrière moi et l'autre qui est en plateau. Jane, de retour. Et c'est peu dire que vous êtes attendue après 4 ans d'absence. C'est le 3e album, The Fool. Pochette 70s, un son différent, pop, folk et synthé. La mélodie qui prend le pas sur les percussions et quelque chose qui change dans la voix. Vous avez tiré la bonne carte, le fou. Et je lis dans votre jeu que vous serez en live dans quelques instants pour 2 titres. Avec nous aussi Tiwayo. Alors pour vous, c'est le 2e album, Desert Dream. C'est une avant-première puisque le disque sort vendredi prochain, dit titre porté par cette voix voilée qui vous caractérise, 2e album épuré qui retient son souffle. Marion ?
C'est le soir des nouveautés nouvelles, Laurent. Elles vont aller surfer du côté de Hawaï, danser sur les plages brésiliennes. 3 sons à découvrir vers 22h30.
Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
Une ouverture tout de suite en live avec Jane, en live, en direct, à la guitare. Le premier titre, c'est le nom de l'album, The Fool. On en parle après. Jane, c'est à vous.
Walking on a wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in our space, I should have known better. A rain of fiery rocks, the sun lights up the dark. I'm one's a new surprise, spinning colored circles, there's no up or down, singing in the silence to my morning star. I'm dancing.
C'est superbe. Jane en live, en direct, à la guitare pour Côté Club. Prise de son ce soir précieuse. Mathieu Bérény et Selim Gheribi. Jane de retour après 4 ans d'absence. Il y a eu 2 albums depuis 2015. Plus d'un million de ventes. Une énorme tournée de plus de 300 concerts dans le monde. Je me demande comment vous faites. 4 ans d'absence, mais au travail pour ce 3e album, The Fool. Et je vous regardais là, à la guitare, et je me demandais, les chansons sont nées à la guitare parce qu'il y a une telle évidence quand vous la chantez ?
C'est vrai que vraiment j'ai écrit le trois quarts des chansons guitare-voix, ce qui était très différent par rapport aux albums précédents où j'avais l'impression d'essayer d'inclure ma voix dans un instrumental qui existait déjà. Et là vraiment ma voix a pris le lead sur les chansons.
Ça a libéré quelque chose de composer à la guitare ? Au piano aussi quelquefois ?
Oui, quelquefois au piano. Oui,
ah oui, ça a changé carrément la méthode de travail.
Ouais, je me suis dit, oui j'avais envie d'essayer autre chose, une autre façon d'écrire, d'aller un petit peu plus loin et de aussi un peu essayer de redécouvrir ma voix, je dirais.
Changement donc de paradigme pour ce 3e album qui change la donne, toujours en anglais quand même. Vous avez essayé un peu le français pendant les années de confinement ?
Ouais, j'ai essayé, mais je suis pas.
Ça marche pas.
Je suis pas totalement satisfaite. Je suis pas hyper fan de mon écriture en français. Je préfère mon écriture en anglais.
Et pour vous, TYU, on va parler de quelques instants dans votre album, mais vous aussi, c'est en anglais ?
Oui, tout à fait. Moi aussi, je pense que je suis plus à l'aise avec la langue anglaise. Et après, il y a le langage universel de la musique aussi, c'est vrai, qui, des fois, est-ce que les langues en anglais, en français...
C'est pas véritablement la même chose. Par exemple, ma mère ne vous comprendra pas. Alors, pour mesurer les effets de ce 3e album, petite piqûre de rappel avec les tubes, vous n'y échapperez pas. Makeba en 2017, victoire du meilleur clip, victoire de l'artiste féminine, bravo.
Merci.
Et puis on remonte un petit peu le temps, comme
My love, I just feel so lost without you, boy. I am yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world, living this jail of my mind.
Vous aviez une drôle de voix, dites-moi,
oui.
À l'époque.
Mais c'est pas moi qui chante.
Non, c'est pas vous qui chante, c'est qui ? C'est TYU.
C'est toi ? Ah,
mais ouais. J'ai pas reconnu, moi non plus. Je suis pas reconnu.
C'est pas vrai.
Ouais, il m'a fallu un moment, ouais.
Parce que vous l'aviez jamais entendu à la radio, c'est pour cette raison ?
Pour cette raison, je pense, ouais.
Ouais, vous aviez repris ce titre ?
C'est vrai, ouais. Mais c'était un super titre, ouais.
C'est super, hein. Vous n'aviez pas demandé l'autorisation. De toute façon, on n'a pas besoin de demander l'autorisation.
Pour faire des reprises.
Non, je ne crois pas.
Tant qu'on n'abîme pas. Pour quelle raison vous aviez repris ce titre ? Qu'est-ce que ça pouvait représenter pour vous, TYU ?
Alors, je ne sais plus. Je crois qu'à l'époque, je faisais un truc. J'étais pas tout seul. J'étais avec une bande de différents artistes. Et donc, je ne sais plus. Il y a dû avoir un thème. Mais c'est vrai que le titre était vraiment super. Du coup, je pense qu'on a pris plaisir à le faire de mémoire.
Aujourd'hui donc The Fool, 3e album, il y a toujours la dimension pop, électro, mais les titres sont plus mélodiques, on va l'entendre, moins percussifs, alors même que les percussions quand même, c'est votre histoire, percussion arabe, batterie, c'est votre formation, Jane.
Oui, c'est ma formation, mais c'est aussi mon histoire et c'est, j'ai l'impression que nos styles musicaux évoluent au fur et à mesure du temps. Et sur cet album-là, en fait, je me voyais mal. J'ai écrit Com et Makeba quand j'habitais au Congo, à Brazzaville. Donc forcément, il y avait plein de percussions. Là, ça fait quand même... ça va faire 10-15 ans que j'habite à Paris. Je me voyais pas utiliser...
À Paris, ou presque, que vous ne touchez plus terre. Vous êtes dans le monde entier en tournée. Alors, un son, plusieurs registres sur cet album. Extrait de Falling. Deuxième extrait, un autre registre, un peu plus dance floor, Cosmic Love. Cosmic Love. Allez, tiens, on change encore une fois. I feel alive.
I lay in the light, 'cause I know what's in the dark. And the stars only shine, 'cause the rays of the sun.
Peut-être un commentaire, Jane, sur les différents registres que vous abordez sur cet album.
C'est vrai que pour le coup, c'est une autre proposition artistique hein, par rapport aux deux précédents, mais c'est ça qui m'intéressait aussi. Et je pense que ça vient aussi de tout ce temps-là que j'ai pris, de tout du confinement, etc., qui a mené quand même à pas mal d'introspection. Et j'avais envie d'essayer autre chose et d'être influencée aussi par des artistes que j'ai redécouverts pendant ce moment-là.
On va en parler des artistes des 70s et des 80s d'ailleurs. C'est votre complice Maxime Nucci, hein, alias Yodelis, qui vous accompagne sur le projet, un ami de longue date, adolescente déjà. Premier titre d'ailleurs, c'est avec lui, comme
oui,
vous l'avez composé.
Depuis tout début, ouais.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé cette fois-ci?
Déjà, si ça lui plaisait, si ça l'inspirait.
Bon, ça, il a répondu oui, manifestement. Ouais.
Oui, mais ce qui n'était pas forcément acquis. Non, moi j'ai écrit toutes mes maquettes à Marseille ou chez moi. Et en fait, je suis arrivée dans son studio, je crois que j'avais peut-être... en gros, une trentaine de maquettes, mais certaines vraiment pas abouties. Et on en a discuté. Je lui ai raconté un peu ce que je voulais raconter dans cet album. Et tout de suite, il a été partant, quoi.
Qu'est-ce que vous faisiez à Marseille? Vous êtes allé vous reposer à Marseille?
Non, je suis allée écrire à Marseille. Je suis allée avec ma guitare dans un endroit hyper inspirant qui s'appelle Lance de Malmousque. Et en fait, c'est vraiment des anciens cabanons de pêcheurs et aménagés qui donnent vraiment sur la mer. Et donc, j'ai pris ma guitare et donc j'étais toute seule avec ma guitare sur mon lit, comme quand j'avais 16 ans.
Ça, c'est bien.
Ça, c'était trop bien.
Marion ?
Il y a un autre changement chez vous, Jane. Moi, je m'occupe de l'instant fashion de cette émission.
Ah ben, c'est
au niveau de votre look. Moi, je vous ai connu premier album avec une petite robe noire, un col Claudine blanc. Deuxième album, combinaison de pompiste bleu. Et là, on a l'impression que c'est beaucoup plus casual, un peu 70s. Quand même, ça y est, vous n'avez plus besoin d'uniforme ou il va y avoir quelque chose d'autre qui va se préparer pour la scène?
Non, sur la scène, j'aurai pas un uniforme, mais j'aurai un costume qui changera quand même de concert en concert. Mais c'est vrai que pour la promo, etc.
Même pour la promo, vous étiez quand même habillée.
Mais en fait, j'en ai porté pendant 5 ans, j'ai porté des uniformes. Alors là, j'avoue que j'avais un peu envie même si c'est très pratique, j'avais un peu envie de me libérer de ça aussi et d'incarner vraiment mon personnage sur scène. Mais sur scène, effectivement, il y aura un vrai costume.
Retour au micro, sur la scène de Côté Club et à la guitare. Pour vous, Jane, je vous laisse regagner derrière nous votre partition. Jane est en tournée ce soir dans Côté Club, rien que pour nous, avant les zéniths de la rentrée. Maria, peut-être un mot sur le titre que vous allez interpréter. Maria.
On m'entend là ?
Oui, on vous entend parfaitement, avec une belle réverbe.
Oui, c'est vrai ça. Maria, c'est une déclaration d'amour.
À qui ?
À quelqu'un.
Qui s'appelle Maria?
Who knows?
Side by side, my face reflected in your eyes. Light up the night, I let you be my guide. Hope and mercy, you and I. I pray for mercy for you and me. I wish that you could see mercy for you and me. I wish that you could see mercy for you and me. We all say stuff that hurts sometimes, but it's not enough to break this heart.
Jane, au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, en live, rien que pour nous, comme quand elle était dans son cabanon à Marseille avec sa guitare. Merci à vous. Un mot peut-être, qui allait nous rejoindre, un mot peut-être sur la pochette de ce troisième album qui en dit beaucoup. Un dessin, vous êtes remise au dessin ?
Oui, c'est vrai que du coup j'avais un peu plus de temps qu'avant pour dessiner.
C'est pas mal ce confinement en fin de compte,
ah ouais.
Et cette pause de quelques années.
De 4 ans, ouais. C'est vrai que j'ai pris mon temps et oui, en fait, avant de découvrir la musique, moi je faisais du dessin. C'était vraiment là, ce que j'avais envie de faire, c'était dessiner des pochettes d'albums. Donc là, je me suis vraiment dit, c'est parfait pour cet album-là, qui est quand même un peu avec des influences 70s justement, d'aller dans le dessin et de faire ma propre pochette.
Pourriez-vous la décrire pour les auditeurs et les auditrices ?
Oui, c'est un peu inspiré des pochettes d'albums, notamment de Jimi Hendrix, par exemple, des années 60, fin 70, psychédélique.
Dans le lettrage, oui.
Oui, après, elle est violette avec un peu d'orange et j'ai ma tête dessus.
Exactement, votre visage avait quelque chose aussi d'un petit peu
spatial, cosmique,
oui. Comme à l'époque.
Exactement.
Un dessin donc, inspiration de pochette 70s, une pochette qui raconte ce que vous avez écouté, parce que j'ai lu un petit peu ce que vous racontiez, Kate Bush, Stevie Nicks. Qu'est-ce que vous avez entendu et trouvé chez elle pour cet album ?
C'était des artistes que j'ai toujours connus, mais je ne connaissais pas du tout toutes leurs œuvres, et c'est vrai que quand on est en tournée, on n'est pas forcément apte à l'écoute d'un album en entier. On n'a pas forcément envie parce qu'on fait de la musique tout le temps. Et là, je les ai vraiment redécouvertes. C'est notamment un vinyle de ma mère qui s'appelle The Kick Inside, donc le premier album de Kate Bush. Et j'étais vraiment, ça m'a vraiment retournée, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à prendre une telle claque. Et du coup, j'ai vraiment écouté. J'étais monomaniaque sur cet album. Je l'écoutais vraiment.
Qu'est-ce que vous avez entendu précisément ? C'est au niveau de la voix, au niveau des arrangements, d'orchestration.
Je sais pas, la première écoute, elle m'a tellement semblé bizarre, en fait. Sa voix au perché, qui j'ai jamais entendu une voix comme ça. Les instrumentaux, hyper avant-gardistes pour l'époque. Je trouve ça super original et très émouvant.
C'est à ce moment-là que vous avez compris que vous vouliez retrouver ou aller au plus près de votre voix ?
C'est à ce moment-là où j'ai re-eu envie d'essayer de faire une proposition artistique. Je savais pas vraiment où je voulais aller, et là je me suis dit, en fait, je suis pas allée par là, j'ai envie de voir ce qui se passe.
Alors pour cet album, c'est presque un album concept, puisque à chaque chanson correspondrait une carte du tarot de Marseille. L'idée arrive comment, chez vous ?
En fait, c'est un peu un tout. Déjà, j'avais envie d'essayer de faire un album concept, mais que ce soit pas qu'un album, j'avais envie qu'il soit matérialisé, en fait, que les gens puissent avoir des choses chez eux qui fassent aussi l'histoire de l'album. Et quand j'ai écrit l'album, j'étais à Marseille, et en fait, je me posais plein de questions, et je me suis souvenu que ma mère tire le tarot de Marseille, en fait, depuis que je suis toute petite, à moi et mes grandes sœurs, et c'est toujours des moments familiaux hyper hyper intime et hyper hyper plaisant. Et donc j'ai décidé que chaque chanson correspondra à une carte du tarot de Marseille que j'ai dessinée.
Elle vous a appris à tirer les cartes ?
Oui, elle m'a un petit peu appris, mais je suis beaucoup beaucoup moins forte qu'elle, j'avoue.
Et quelqu'un lui avait appris à tirer les cartes ?
Ça, c'est une bonne question, je crois pas. Je crois que c'était inné.
Est-ce que vous demandez aux cartes des choses avant de prendre des décisions, par exemple? Est-ce que vous demandez à votre mère de regarder dans le tarot ce qui pourrait vous concerner à la sortie d'un album, une tournée, changer de producteur?
C'est vrai que pour ce qui est musique, oui, je vais souvent la voir, et puis mais c'est pas forcément, c'est pas le côté divination vraiment qui m'intéresse. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là que je partage avec elle, plus que vraiment le côté ésotérique. Et mais ce que je trouve fascinant avec le tarot de Marseille, c'est qu'en du coup, en faisant mes recherches, j'ai vu que c'était une tradition en fait de refaire le tarot de Marseille. Il y a Dali qui l'a fait, il y a André Breton, il y a plein d'artistes. Même aujourd'hui, je vois encore dans des jeux vidéo.
Jodorowsky aussi. Ouais.
Oui, exactement, et qui l'a fait aussi. Et je trouve ça hyper intéressant comme tradition.
Vous connaissez cette tradition ?
Pas trop, non.
Non,
pas trop.
Pas dans. Elle va vous les tirer les cartes, vous allez voir. En ouverture, tout à l'heure, je parlais de la tournée dingue, vraiment dingue, que vous avez faite 2 ans non-stop, plus de 300 concerts, ce qui est absolument énorme. Vous aviez dans les 25-27 ans, c'est très jeune. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit que vous perdiez le contrôle sur votre vie, Jane ?
Perdre le contrôle, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, oui, c'est pas la vraie vie, la vie de tournée, c'est pas la vraie vie. Enfin, c'est vrai que j'étais loin très souvent de mes proches, de mes amis, de ma famille. Et au bout d'un moment, quand on est tout le temps sur les routes, en fait, on donne beaucoup, même si on reçoit beaucoup d'amour, on donne beaucoup. Et là, j'avais besoin de prendre un petit peu.
Ça a été facile de pouvoir s'arrêter ?
Non, c'était une décision très compliquée, mais qui n'était pas compliquée pour moi, mais qui était compliquée à prendre pour mon équipe surtout, pour les gens avec qui je tournais, pour mon manager, pour mon tourneur, etc. Là, c'était plus compliqué, mais pour moi, je sentais que j'en avais besoin et finalement, ils l'ont tous très bien accepté. Donc...
Ça a duré quelques années, enfin pas tant que ça, hein, parce que 4-5 ans, c'est pas non plus énorme, notamment quand en plus on travaille sur un nouvel album. Aujourd'hui, tout reprend, je regarde la tournée avec un rythme soutenu, il va y avoir les Zéniths, la tournée des Zéniths. Est-ce que vous avez cadré les choses ? Je vous parle de ça parce qu'on a appris récemment que Stromae lui avait arrêté carrément toute sa tournée, suite à un retour de ce qu'il avait pu vivre il y a quelques années. Est-ce que vous avez cadré les choses cette fois-ci, Jane ?
Oui, effectivement, on a pris des dispositions pour que ce soit quand même beaucoup plus allégé. Je ne fais pas plus de 3 concerts d'affilée. Voilà, on regroupe un peu, c'est pour ça qu'on fait des zéniths aussi, pour regrouper un petit peu. Mais même, voilà, c'est quelque chose auquel je fais très attention et j'hésiterai pas à dire stop quand il le faudra. S'il le faut, j'espère pas. Mais...
Sur scène, ça donnera quoi ? Donc on a compris avec Marion, une nouvelle tenue, un nouveau costume.
Et un groupe.
Et voilà.
Ouais. Maintenant, je vais avoir un groupe, ce que j'avais pas pendant 5 ans où j'étais toute seule. Même s'il y aura des rappels de l'ancien spectacle pendant le nouveau spectacle. Mais ouais, pour cet album-là qui est quand même beaucoup plus... beaucoup plus organique en fait. J'avais vraiment envie d'avoir des musiciens avec moi sur scène.
Eh bien, on verra ce que ça va donner. On vous suivra. Dans quelques instants, vous saurez tout sur les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault. Pour patienter, car je vous sens tous et toutes fébriles, je vous propose Laura Cahen en duo avec Jeanne Hadid. Là où je vais, c'est sur France Inter.
Moi, j'ai toujours aimé marcher sous la pluie. Même si l'orage et même si la nuit m'emporte loin de tout, m'emporte loin d'ici. Là où je vais, là où je vais. Cette nuit, je dormirai dehors. Cette nuit, tu sais. J'ai toujours aimé marcher sous la pluie. cette nuit.
Je vais signer Laura Ken avec Jeanne Haddad. On y arrive, les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeault, épisode 1 ce soir.
Côté club.
Le son est nickel, okay. Le texte est impeccable,
parfait.
La rythmique tourne comme il faut.
Super.
Il y a la réverb qu'il faut.
Impeccable.
Non, bien joué. Ben.
On le savait, Laurent, la femme est hyper active. Il y a toujours un millier d'idées de musique dans la tête et dans les oreilles de Marlon et Sacha. Et depuis le temps qu'ils nous parlent de surf dans leur pop, il fallait bien que la femme finisse par accoster à Hawaï. Le groupe le plus émancipé de la pop française prend donc la vague avec un Aloha Baby, qui ne sonne pas vraiment comme un hommage à la culture tiki. Il n'y a pas de vaïné, il n'y a pas de ukulélé, il n'y a pas de mai tai. Non, il y a vraiment 6 minutes avec un sax langoureux, des rythmiques frénétiques, des oh 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 en cascade et des guitares enregistrées à l'envers. Bref, c'est plutôt un doux délire de musique drone et contemplative, comme ils disent, à écouter sous influence peut-être.
Allez, c'est parti. Je mets les voix, je passe le cap sur Hawaï. Oh, sur la playa. Toi et moi, les vagues.
Avec Aloha Baby. C'est un titre issu de Paris Hawaï, un nouvel EP apparaît le 19 mai chez Disque Pointu, un titre qui s'ajoute à la collection Odyssée, imaginée par la femme et qui fait suite à Teatro Lucido, leur précédent disque en espagnol. Dépaysement également avec Au revoir Saudade. Trois musiciens éparpillés aux trois coins de la planète, une parisienne au Mexique, c'est Anne Gouverneur, une musicienne qu'on a aperçue et surtout écoutée aux côtés d'Albin de la Simone de Miossec. Elle est associée dans cette aventure avec un carioca basé à Londres, un paolo Listo qui vit à Paris, un trio qui se rassemble pour Matar a Saudade, c'est-à-dire tuer la nostalgie. Leur disque a été enregistré entre Paris et Sao Paulo, et pourtant pas vraiment de traces de samba, de bossa ou de foro, mais plutôt une pop séduisante, très légèrement psychédélique, qui grâce à quelques percussions et quelques accords de cavaquinho, passe les frontières sans s'arrêter.
Now it's time to say goodbye.
Ordinary Love, c'est signé Au revoir Sodat. C'est un des titres dispo sur les internets avant l'arrivée de leur premier album pour l'été. Enfin, Brésil, encore et toujours avec le super groupe Limousine, qui convoque plusieurs voix sur leur nouvel album Hula Hop, comme celle de Lucas Santana, originaire de Salvador de Bahia. Je vous parle de super groupe au sujet de Limousine, vu le niveau de jeu et l'inventivité des quatre musiciens qui sont au volant. Laurent Barden au sax, Laurent Barden qu'on a applaudi à Bourges la semaine dernière pendant le fabuleux concert de Thomas de Pourquerie, Maxime Delpierre à la guitare, Frédéric Soula au clavier et David Aquin à la batterie. Jusque-là, Limousine avait enregistré quatre disques magnifiques d'une musique sans paroles, très suggestive, souvent hypnotique. Mais pour ce cinquième album, Hula Hop, Limousine a donc ouvert les portières aux voix de Malik Djoudi, Victor Solf, Akhenaton, Amber Burgoyne et Lucas Santana, avec des chansons vraiment taillées pour eux. Des passagers qui permettent au groupe de dévier de l'autoroute instrumentale qu'ils ont largement sillonnée, de se renouveler et de surprendre. Et dans Côté Club, on a un coup de cœur pour le sentier tropicaliste et onirique emprunté par Lucas Santana.
Foi assim, no clique de um flash, que o peito estremece. Foi assim, o som tomando de assalto, a festa num sobressalto.
Avec Lucas Santana, c'est un des titres de Hula Hop, le nouvel album de Limousine qui sort vendredi. Et rendez-vous donc demain dans Côté Club pour un deuxième épisode des Nouveautés Nouvelles. Alors, le délire hawaïen de la femme, la pop psyché tropicale d'Au Revoir Sodat, la collaboration entre Lucas Santana et Limousine, qu'est-ce qui a retenu votre attention, Jane?
Moi j'ai adoré le dernier morceau et la femme, très très chouette aussi, ouais.
Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît, par exemple, dans un morceau comme celui de Limousine avec Lucas Santana?
Moi, ce qui m'a frappé en premier, je dirais sa voix, déjà, cette douceur et cette chaleur en même temps. On a l'impression qu'il susurre à l'oreille. C'est plutôt agréable.
Et de votre côté, Thierry Wayo?
Oui, j'ai aussi beaucoup aimé les voix et aussi c'est marrant de sentir aussi l'importance des instruments, ce côté très organique. En fait, on a du mal à s'en séparer, je trouve, et ça fait toujours du bien. On sent l'influence des 60s à fond quand même. Et j'ai beaucoup aimé le sax sur la fin. Ça me fait penser à un truc qui s'appelle...
Le saxophone de Laurent Barden.
Ça me fait penser à un truc qui s'appelle les Éthiopiques.
Oui, bien sûr. Oui.
Ça m'a fait beaucoup penser à ça, ouais. Et j'ai beaucoup aimé.
À cette collection-là, oui, bien
sûr. Je vous ai vu aussi sourire quand la femme a commencé.
Ouais. C'est ce côté un peu décalé, un peu dingue. Ouais, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais.
Côté club.
Sur France Inter.
Jane et T.Y.O. sont nos invités côté club ce soir. T.Y.O. avec Desert Dream, deuxième album. T.Y.O., est-ce que vous savez ce que ce nom signifie, le concept, l'énigme qui se cache derrière, Jane?
Je dois avec non.
Eh bien, vous le renseignez? Vous la renseignez, T.Y.O.?
Donc en fait, c'est un surnom qu'on m'a donné dans mon tout premier séjour aux États-Unis, qui a eu lieu à un petit moment maintenant. Et donc en fait, ça correspond aux initiales The Young Old. Et donc j'ai rencontré des gens en fait dans ce voyage, et donc il y a quelqu'un qui m'a surnommé comme ça The Young Old parce que je chantais un petit peu et puis j'avais ma voix cassée et puis avec mon visage qui faisait jeune, bref, et donc il m'a sorti ça, et du coup on a dérivé à TYO, les initiales, et j'ai gardé TYO, voilà, comme nom.
Et le nom de Jane, vous savez d'où il vient d'ailleurs?
Non.
Vous le renseignez,
Jane? C'est bien,
ça. Ben voilà, ouais. Comme ça au moins.
Non, en fait, j'ai cherché un nom de scène quand j'avais 16 ans. Et du coup, j'essayais de trouver quelque chose qui était assez proche de mon vrai prénom, qui est Jeanne, et qui soit prononçable un peu partout dans le monde. Et donc, je suis tombée sur une citation un jour qui venait en fait d'une citation jainiste, qui est une religion indienne. Et je ne le savais pas vraiment à cette époque-là. Et en fait, cette citation disait... ne sois pas déçu si tu perds, et en gros, ne sois pas déçu si tu perds, et je sais plus, et en plus, je sais même plus ce qu'elle dit, et ne deviens pas fier si tu gagnes, c'était ça. Et en dessous, il y a signé Jane, et je trouvais ça assez chouette comme sorte de mantra pour commencer dans la musique.
J-A-I-N. T.Y.O., vous aussi un changement de paradigme pour ce deuxième album. Le premier, The Gypsy Soul of T.Y.O., produit par McNeil, qui a travaillé avec The Black Keys, sonnait comme cela.
We ain't got no time.
Une voix incroyable, hein, Jane?
Ah ouais.
Incroyable pour un jeune vieux, véritablement, on vous a bien qualifié à l'époque. Pour le second album, eh bien, vous avez opté pour les purs, on va écouter Shelter Me.
Hello, pal, can you feel me? I'm falling down, where are the days of peace? Show me how to reach the kingdom of our blue dreams, our blue dreams. Oh, my friend, so please help me, please shut down me.
Mais vous avez combien de voix, T.Y.O.?
Pardon. Non, mais c'est. J'ai plusieurs voix. Effectivement, j'ai plusieurs voix. Enfin, je pense qu'on a tous plusieurs voix, en fait. En fait, on a tous plusieurs voix.
Oui, mais il y a quelque chose entre la voix voilée qu'on écoute là et la voix, on va dire, éraillée que vous aviez sur le premier album. Ah,
tout à fait. Mais en fait, j'ai voulu, pour le coup, moi, j'ai voulu quand même me détacher de pas mal de choses de mon premier album. C'est-à-dire que c'était un album assez produit.
Très produit.
Assez produit, voilà, que j'ai enregistré aux États-Unis. Il y a eu pas mal de monde qui a été impliqué dans la production de cet album, et franchement j'en étais fier, j'en suis encore fier aujourd'hui. Après, bah, enfin, je pense qu'un petit peu comme Jane, voilà, on chemine et on avance dans la vie. C'était après, dans ce premier album, il y avait aussi, il était beaucoup basé autour de la rythmique, et une certaine effectivement agressivité du son et une certaine amertume que j'aime aussi. Mais vraiment pour ce nouvel album et mes dernières chansons, je voulais vraiment donner quelque chose de complètement différent et beaucoup plus intime et essayer vraiment d'enlever toutes les barrières qui pouvaient exister et essayer vraiment de me rapprocher le plus possible des auditeurs, essayer de chanter comme si on était à la personne, comme si la personne était juste à côté de nous. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça explique aussi que ma voix est moins saturée, moins criée.
Le premier album, vous l'aviez donc enregistré aux États-Unis. Le deuxième, vous l'avez enregistré où? Alors même qu'il a un titre très américain, Desert Dream.
Tout à fait. Alors je l'ai enregistré en fait dans le grenier de ma maison quand j'étais encore à Asnières. Ces dernières années, c'est ouais. En fait j'ai commencé vraiment à bosser. J'avais commencé à bosser, mais j'ai commencé à bosser en gros juste en gros au moment du confinement. Alors pour la petite blague, en fait j'avais prévu de m'enfermer en fait de toute façon et le confinement
voilà, est arrivé au bon moment.
J'ai fait ça. Je me suis enfermé. Je me suis concentré à ça. J'ai aussi essayé dans cet album de. Enfin, j'avais vraiment envie de faire toute la réale. Voilà.
Et vous êtes à toutes les places. Vous êtes le compositeur, le producteur, réalisateur.
Ouais. Oui. En fait, c'est un album que j'ai vraiment voulu faire un instinct. J'ai voulu vraiment essayer de, encore une fois, de limiter tous les filtres. Alors, parce que c'est vrai que dans la production d'un album, il y a plein de phases et il y a plein de moments où, après, c'est des choix. Mais donc voilà, je voulais. En fait, j'avais aussi des idées pour ces chansons qui étaient plus larges que simplement une guitare ou une voix. Et donc, j'ai essayé de donner un décor à cette musique. C'est beaucoup de lumière, de différentes inspirations. Et j'ai gardé mes inspirations de la Californie, qui était le dernier séjour que j'avais fait aux États-Unis. Et je les ai mélangées avec ma vie ici à Paris.
Marion. À propos de guitare, Tiwayo, quand vous êtes rentré tout à l'heure dans le studio, vous avez félicité Jane sur la sienne. Est-ce que vous avez beaucoup de guitares? Vous êtes un collectionneur? Vous avez une guitare fétiche?
Alors, je pourrais pas dire que je suis un collectionneur parce que, mais j'ai pas mal de guitares. J'aime beaucoup les guitares. Je pense même que je peux dire que je suis un passionné de guitare, voire même un geek.
Voire un collectionneur,
on va dire ça.
Non, mais parce que les collectionneurs, c'est un autre truc, parce qu'ils vont vraiment acheter des instruments qui sont très vieux et qui coûtent très très cher, et des trucs que je peux pas. Mais j'ai quelques guitares. Après, chaque guitare a une personnalité, chaque guitare a quelque chose à vous offrir, une chanson. Il y a une interview de Patti Smith qui disait que chaque guitare a une chanson à offrir à quelqu'un, donc c'est aussi ça, quoi.
On va écouter justement une nouvelle chanson, Daughters of the Stars, extrait de ce deuxième album.
Purple sky, upon the clouds, show me your magic rose. My daughter of the stars, my sun, my rain, my princess, my love, my happiness, my pain. My daughter of the stars, my sun. Just one time on a full moon night, and you take me by the hand to your deep blue twilight. I feel my blood running through my veins, and feel my heart burning, flame after flame. I'm a daughter of the stars. Sun, my rain, my princess, my love, my happiness, my pain.
again, again, again.
Très beau, Daughter of the Stars, la voix de T.Y.O. Je vous ai vu très attentive, Jane, en écoutant le morceau.
Ouais. Oui, j'ai écouté, c'était très très beau. Mais il a tout, t'as toujours une super voix, quoi. C'est vraiment chouette.
Un mot sur cette voix, justement, parce que cette fois-ci, on l'entend beaucoup plus calme que le précédent album, une voix voilée. Je sais que vous avez chanté un temps dans le métro. C'est pas facile de chanter dans le métro, l'acoustique y est épouvantable. Qu'est-ce que vous y avez appris de cette expérience, justement, pour pouvoir vous faire entendre avec la réverbération qu'il y a?
Alors, à l'époque du métro, maintenant, ça fait un...
Ouais, ça
commence
temps,
à faire un
sûr.
Petit moment. Mais c'était un moyen... surtout d'explorer les différentes tonalités. Et alors, ce qu'il y a dans le métro, en plus, je me rappelle que j'y allais vraiment à l'arrache. c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plutôt plus ou moins organisés,
oui,
ils sont
amplifiés,
etc.
Voilà,
machin. Ouais. Bon, moi, j'y allais un petit peu, voilà, comme juste avec ma guitare. En fait, quelques fois, je prenais un ampli, je crois. Mais en gros, je m'amplifiais pas trop, et ça fait que du coup, j'étais vachement dépendant des passages des gens, etc. Du bruit qui était occasionné par le métro, le passage des gens. Et donc, du coup, ça m'a poussé à chanter plus fort. En fait, c'est surtout ça. Du coup, à chanter plus haut aussi. Et ça a été principalement ça. En tout cas, en termes vocal, ça a été sortir la voix, effectivement.
Vous aviez une station attitrée?
Alors j'avais différents endroits. Je me rappelle que j'ai un souvenir où j'ai la Charles de Gaulle Étoile, parce que je donnais des cours de guitare aussi à la période. Donc c'était un peu entre deux cours de guitare. Des fois, je descendais. Je le faisais un peu au feeling. Hein, c'était pas super.
Quel était votre répertoire quand vous chantiez dans le métro? Parce que je vous parle de ça parce que je sais que là, on entend quelque chose de très américain, mais au départ, vous étiez plutôt reggae. Mais vraiment reggae, T.Y.O.
C'est vrai. Le reggae, je pense que ça a été mon premier amour. Voilà, quand j'ai commencé la musique jamaïcaine, et je reste d'ailleurs encore un grand, grand fan de reggae et de musique jamaïcaine. Donc je chantais du reggae.
beaucoup.
Pardon, des trucs de Bob Marley notamment. Qu'est-ce que je chantais? Bon, je reprenais aussi des trucs un peu pour les gens, donc sûrement des Beatles. Parfois des versions reggae, des trucs des Beatles, genre j'adore. J'ai probablement fait des trucs comme ça, des Let It Be en reggae ou des trucs comme ça. Ouais.
Vous avez une période reggae vous aussi, Jane?
Quand j'étais ado, j'étais très très reggae.
Alors à quel moment vous avez trouvé votre propre identité musicale? Parce que c'est pas la même chose.
Alors, c'est-à-dire que après la musique américaine et la musique jamaïcaine sont très très liées, comme vous le savez, historiquement.
Oui.
Et donc en fait les ponts entre la musique des Caraïbes et des États-Unis, enfin il y a énormément de ponts entre ces musiques. Donc pour moi en fait quand j'ai fait le passage du reggae au blues et à la soul, puisque après j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Jamaïque, mais quand j'ai commencé à voyager aux États-Unis, qui est un pays dans lequel je suis retourné de nombreuses fois, j'ai retrouvé en fait dans le blues et la soul des choses que j'avais entendues dans le reggae, et donc il y a constamment ce va-et-vient. Je pense que dans mon premier album, il y avait un côté où j'ai exploré différents côtés effectivement de mes inspirations, et je crois qu'avec ce second album, j'ai effectivement essayé de donner quelque chose de plus personnel, et au-delà de ça, vraiment essayer de donner quelque chose de très sensoriel, presque comme si on pouvait toucher la musique. Il y a aussi, effectivement, voilà, ce côté sensoriel que j'ai essayé de donner aux choses.
Quand je vous écoute aujourd'hui, je repense à ce que vous déclariez au moment du premier album. Vous disiez « Pour moi, la chanson vient toujours avec l'arrangement d'un seul coup. J'ai les paroles, les accords et la mélodie dans la tête, et ensuite je dois aller directement dans mon home studio pour trouver un groove et arranger le plus possible. Je ne sais pas si la chanson est bonne tant que je ne l'ai pas arrangée. » C'est toujours le cas?
Alors en fait, cet album, c'est exactement ça, poussé à l'extrême, puisque parfois il y a plusieurs versions entre ce que les artistes peuvent faire d'abord, et puis ensuite les proposer à un producteur, et puis parfois maintenant aujourd'hui, les morceaux vont de producteur en producteur. Là, j'avoue que j'avais envie d'aller au bout des choses, et que ces morceaux, que je vois comme des peintures, j'aime bien employer le mot peinture, puisque c'est toutes ces couleurs en fait qui me venaient avec donc les mots et les guitares, et j'avais envie d'aller au bout de l'arrangement. Et effectivement, là, j'ai emmené ces idées au bout pour chaque morceau, telle guitare, tel son de basse, tel son de batterie, etc.
Voilà. Tout est cohérent. La synesthésie parfaite. On va se quitter avec Oumu Sangaré, qui revient d'ailleurs souvent dans vos interviews, hein, Jane.
J'adore. Ouais.
Ouais. Une image féminine de référence. Vous l'avez découverte à quelle occasion?
Je l'avais découverte dans une playlist quand j'habitais, ouais, encore au Congo. Et elle avait une chanson qui s'appelle Samani.
Ouais.
Et que j'ai trouvé vraiment magnifique, et c'est ça aussi la musique, on n'a pas forcément besoin de savoir les paroles pour comprendre. Et c'est la première fois que je me suis dit ça, c'est en écoutant Moussoum Garé.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Jane.
Merci beaucoup.
Merci pour les deux lives qui sont disponibles sur le site de l'émission. Le nouvel album s'appelle The Fool avec une tournée des festivals cet été. Entre autres, Solidays à Paris le 23 juin, le 16 juillet les Vieilles Charrues de Carré et puis la tournée des Zéniths, 20 octobre à Amiens, le 26 Montpellier, le 27 Lyon, j'en passe jusqu'au 23 novembre à Paris. Faites gaffe à vous quand même. Hein. Merci Tiwayo.
Merci.
L'album c'est Desert Dreams. Il sortira vendredi prochain. Et là aussi, des concerts. Le 3 juin, rendez-vous à Istres. Le 15 au Sierre Blues Festival, c'est en Suisse. Le 6 juillet au Cognac Blues Festival. Là aussi, plein de dates. Jusqu'au 6 décembre à Paris, rendez-vous au Café de la Danse. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... C'était presque ça, Stéphane Le Guenec. Thomas Caruso, Aragona sera notre invité demain. Pas Caruso, Bercella à ses côtés. Pour vous, Marion ?
Encore des nouveautés nouvelles, hein, trop de belles choses à découvrir et à écouter.
Ça sera la saison 2. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Guenec à la réalisation, à la technique, Mathieu Bérény, Selim Guéribi. Et bien voilà, côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
Oh, c'était formidable.
C'était le souffle de l'âme qui posait des mots sur vaguement des notes.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.